Extrait des chroniques du hors-temps. Une nouvelle preuve indirecte de la forêt sombre. Les zones aveugles des intellectrons. Au début de la grande crise, simultanément à l'envoi d'intellectrons pour espionner la Terre, Trisolaris procéda au lancement de 6 autres intellectrons qui avaient pour mission d'explorer d'autres régions de la galaxie à une vitesse proche de celle de la lumière. Cependant, peu de temps plus tard, ces intellectrons pénétrèrent dans des zones aveugles. Celui qui avait pu aller le plus loin avait parcouru 7 années-lumière. Les intellectrons que les Trisolariens envoyèrent par la suite connurent les mêmes mésaventures. La zone aveugle la plus proche était celle rencontrée par le gravité, à 1,3 années-lumière seulement de la Terre. L'intrication quantique entre intellectrons n'était effective qu'une seule fois. Dès lors qu'elle était brisée, elle ne pouvait plus être rétablie. Les intellectrons entrés dans une zone aveugle étaient perdus à jamais. Le monde trisolarien ignorait tout de la nature de ces perturbations. Elles pouvaient tout aussi bien être naturelles qu'artificielles. Les scientifiques trisolariens et terriens penchaient d'ailleurs davantage pour la seconde éventualité. Avant de rencontrer des zones aveugles, les intellectrons trisolariens avaient juste eu le temps de sonder 2 autres systèmes possédant des planètes dans lesquelles ils n'avaient trouvé aucune trace de vie et de civilisation. Les scientifiques des deux mondes considéraient que c'était précisément cette absence qui expliquait une approche aussi facile. Aussi, même au plus fort de l'ère de la dissuasion, l'univers était toujours enveloppé d'un voile de mystère. Toutefois, l'existence des zones aveugles tendait à fournir une autre preuve indirecte de la théorie de la forêt sombre. Elle ne permettait pas que l'univers soit transparent. L'entrée des intellectrons dans la zone aveugle ne causa pas la fin de la mission du gravité, mais elle rendit sa tâche nettement plus complexe. Jusqu'alors, les intellectrons pouvaient se rendre sans peine sur l'espace bleu et prendre connaissance de la situation à bord, mais désormais, le vaisseau était devenu une boîte scellée. En outre, les gouttelettes ne pouvaient plus être contrôlées en temps réel par Trisolaris, et devaient dorénavant compter sur l'intelligence artificielle de leurs systèmes internes, ce qui pouvait avoir des conséquences imprévisibles. Devant cette situation, le commandant du gravité ordonna au vaisseau d'accélérer une nouvelle fois pour gagner du terrain sur sa cible. Tandis que le gravité se rapprochait, l'espace bleu établit pour la première fois le contact avec son poursuivant et proposa de négocier. Les 2/3 de l'équipage de l'espace bleu, dont les principaux suspects, quitteraient le vaisseau par navette et se laisseraient intercepter par le gravité. Le 1/3 de l'équipage continuerait son odyssée à bord de l'espace bleu en direction des profondeurs de l'espace. L'humanité conserverait un avant-poste et un germe de vie quelque part dans l'espace lointain, se laissant la chance d'exploration future. Cette proposition fut fermement rejetée par le gravité. C'était l'ensemble des passagers de l'espace bleu qui étaient suspectés de crime et qui devaient donc passer devant le tribunal. Par ailleurs, ces hommes aliénés par l'espace ne pouvaient plus être considérés comme appartenant à la société humaine et il était hors de question qu'ils s'érigent en représentants de l'humanité pour explorer l'espace. L'espace bleu avait apparemment fini par comprendre que toute tentative de fuite et de résistance était vaine. Si son poursuivant n'avait été qu'un simple vaisseau de la flotte solaire, il aurait pu envisager de livrer bataille. Mais son escorte de gouttelettes changeait radicalement l'équilibre des forces. L'espace bleu n'était pour les gouttelettes qu'une cible de papier. Il n'avait aucune chance d'en réchapper. Quand les 2 vaisseaux ne furent plus qu'à 15 unités astronomiques l'un de l'autre, l'espace bleu annonça sa reddition. Il abandonnait la fuite et amorçait sa décélération à puissance maximale. La distance entre le gravité et l'espace bleu se réduisit rapidement. Cette longue chasse touchait à sa fin. Tout l'équipage du gravité fut tiré d'hibernation et le vaisseau bascula en mode de combat. Cet appareil, calme et silencieux pendant un demi-siècle, débordait à nouveau de vie. Outre la cible qu'il pourchassait, ceux qui venaient de se réveiller affrontaient aussi la réalité suivante. Le contact simultané avec la Terre était perdu. Mais ce qui aurait pu atténuer le fossé mental séparant les passagers des deux vaisseaux eut l'effet contraire. Comme un bambin dont les parents se sont momentanément absentés, le gravité était terrifié par cet enfant sauvage. À bord du vaisseau, tous n'avaient qu'une envie, rattraper rapidement l'espace bleu, puis rentrer sur Terre. Même en se trouvant presque côte à côte dans un espace lointain, désert et silencieux, même en voguant dans la même direction à une vitesse similaire, le gravité et l'espace bleu entreprenaient un voyage de nature différente. Le premier était encore lié à ses racines, l'autre n'en avait plus. 90 heures après le réveil de l'équipage, le docteur West, psychologue à bord du gravité, reçut son premier patient. Il fut surpris de constater que celui-ci n'était autre que le capitaine Devon, un homme dont le marqueur d'équilibre psychologique était pourtant plus élevé que celui de n'importe qui sur le vaisseau. Devon était officier de police militaire. Une fois que l'espace bleu serait intercepté, sa mission consisterait à coordonner le démantèlement de son système d'armement et à procéder à l'arrestation de tous les suspects. Les passagers de sexe masculin montés à bord du vaisseau appartenaient à la dernière génération d'hommes correspondant aux standards de virilité des époques anciennes, et Devon était probablement le plus viril d'entre tous. Avec son corps musculeux, on le prenait souvent à tort pour un homme de l'ère commune. Il ne cachait en outre pas ses considérations radicales à l'égard des participants à la bataille sombre, jugeant que leur cas justifiait le rétablissement de la peine de mort. « Docteur, je sais que vous garderez le secret que je vais vous confier. Et je sais aussi que vous trouverez mon récit ridicule », avança Devon avec une prudence qui tranchait avec son ton d'ordinaire gonflé d'assurance. « Capitaine, dans mon domaine, rien n'est jamais ridicule. » Hier, à environ 436 950 unités de temps stellaire, je suis sorti de la cabine de réunion numéro 4 et j'ai longé le couloir numéro 17 pour regagner ma cabine. Au milieu du corridor, à hauteur du centre de renseignement, un homme est passé à côté de moi. Un lieutenant, ou du moins quelqu'un vêtu d'un uniforme de lieutenant de la spatiale. En dehors de l'équipe de garde, tout le monde aurait dû être couché à cette heure-ci. Mais il n'y avait rien de si étrange à croiser quelqu'un dans le couloir, simplement. Le capitaine secoua la tête. Son regard se troubla comme s'il essayait de se remémorer un rêve. Qu'y avait-il d'anormal ?
Nous n'avons fait que nous frôler. L'homme m'a salué et j'ai jeté un coup d'œil dans sa direction.
L'officier s'interrompit une nouvelle fois. Le docteur l'invita d'un geste à poursuivre.
Cet homme, c'était le major Park Wei-gun, l'officier en chef des forces armées de l'espace bleu.
Vous parlez bien du vaisseau que nous poursuivons actuellement ? Demanda calmement West, sans trahir la moindre surprise. Devon ne répondit pas directement à la question.
Docteur, vous savez sans doute que j'ai ici pour mission de surveiller toute activité à bord de l'espace bleu grâce aux images transmises en temps réel par les intellectrons. Je suis plus familier des passagers de ce vaisseau que du nôtre. Et je peux vous assurer que je saurai reconnaître le major coréen Park Wei-gun entre mille.
Peut-être qu'un des membres de notre équipage lui ressemble fortement.
Je connais suffisamment bien nos camarades pour savoir que non. Et puis, après m'avoir salué, il est passé derrière moi sans la moindre expression. Je suis resté là médusé pendant quelques secondes et puis je me suis retourné. Et j'ai vu que le couloir était vide.
Capitaine, quand avez-vous été réveillé d'hibernation ?
Il y a 3 ans, justement pour pouvoir surveiller ce qui se passait sur l'espace bleu. Avant ça, j'ai aussi été celui qui est resté le plus longtemps éveillé de tout le vaisseau.
Alors vous avez certainement dû vivre l'entrée des intellectrons dans la zone aveugle.
Naturellement.
Jusqu'à ce jour-là, vous passiez vos journées à analyser la retransmission en temps réel de l'intérieur de l'espace bleu. Il est probable qu'à force, vous avez eu davantage l'impression d'être à bord de ce vaisseau plutôt qu'à bord du gravité.
Oui, docteur, c'est vrai que j'ai souvent ce sentiment.
Et puis les images ont disparu et vous n'avez soudain plus rien vu. Conjuguez maintenant tout cela à la fatigue. Capitaine, c'est aussi simple que ça. Croyez-moi, ne vous en faites pas, tout va bien. Si je peux vous donner un simple conseil, prenez un peu de repos. Après tout, à présent que tout le monde est réveillé, nous trouverons bien quelqu'un pour vous remplacer.
Docteur, je suis un rescapé de l'ultime bataille. Quand mon vaisseau a explosé, j'ai réussi à m'extirper à bord d'une cabine de sauvetage plus étroite que la table de votre bureau. Et j'ai dérivé pendant un mois en orbite de Neptune. J'étais presque mort quand on m'a sauvé. Mais je n'ai souffert d'aucun problème psychologique. Je n'ai eu aucune hallucination. Je crois à ce que j'ai vu,
affirma Devon en se levant et en sortant. Arrivé à l'embrasure de la porte, il se retourna et lança
« Si jamais je revois ce bâtard, peu importe où, je le tuerai. »
Quelque temps plus tard, un accident eut lieu dans la zone écologique numéro 3. Un conduit de nutrition avait été fissuré. Ce tuyau était construit en fibre de carbone extrêmement résistante et n'était pas sous pression, de sorte que la probabilité qu'il ait été victime d'un dysfonctionnement était faible. Ivanov, l'ingénieur de maintenance, traversa la dense forêt de plantes alimentées par le système aéroponique de la zone et remarqua qu'on avait déjà coupé la vanne qui alimentait le conduit fissuré afin d'arrêter l'écoulement. Quelques membres de l'équipage étaient occupés à récupérer le liquide nutritif jaune qui continuait à exsuder du conduit. Quand il découvrit la fissure, Ivanov resta pétrifié.
« Mais c'est un impact de micrométéorite !»
Quelqu'un éclata de rire. Ivanov était connu pour son sérieux et son professionnalisme, ce qui rendait sa remarque d'autant plus grotesque. Les zones écologiques étaient toutes situées au centre de l'appareil. La zone numéro 3 était distante de plusieurs dizaines de mètres de la coque.
« J'ai travaillé plus de 10 ans à la maintenance de la coque externe. Je saurais reconnaître ce genre de fissure les yeux fermés. Regardez cet impact extérieur et ces traces visibles d'ablation à haute température aux extrémités. C'est tout à fait typique d'un choc de micrométéorite. »
Ivanov approcha les yeux du trou et examina attentivement la paroi interne du conduit en face de la fissure. Il demanda ensuite à un technicien de prélever un échantillon circulaire de cette paroi afin de le passer au microscope. Quand l'image de l'échantillon grossi 1000 fois fut révélée, un silence glacial tomba sur les observateurs. Quelques petites particules noires étaient incrustées dans la paroi, chacune de quelques micromètres environ. Dans l'image agrandie, elles clignotaient comme des petits yeux malveillants. Tous savaient bien sûr ce que c'était. Cette micrométéorite de 100 micromètres de diamètre s'était brisée en même temps qu'elle avait fissuré le conduit, et les minuscules fragments, ayant quasiment perdu toute énergie cinétique, s'étaient figés dans la paroi. Sans se concerter, tous levèrent la tête. Mais le plafond était parfaitement intact. De plus, au-dessus du plafond se trouvaient encore des dizaines, peut-être même des centaines d'autres cloisons de toute épaisseur qui séparaient la zone numéro 3 de l'espace extérieur. La moindre collision ayant impacté n'importe laquelle de ces cloisons aurait aussitôt déclenché une alarme de niveau élevé. Cependant, cette micrométéorite ne pouvait provenir que de l'espace car, à en juger par la forme de la fissure, elle avait percuté le conduit à une vitesse relative de 30 000 mètres par seconde. Elle n'aurait jamais pu atteindre une telle vitesse à bord de l'appareil et encore moins à l'intérieur de la zone écologique.
« Un putain de fantôme !»
murmura un lieutenant nommé Ike qui s'éloigna de la scène. Ces mots n'étaient pas prononcés à l'emporte-pièce. Une dizaine d'heures plus tôt, il avait vu un autre fantôme, bien plus grand. Ike était allongé dans le lit de sa cabine, à moitié somnolent. Il vit soudain une ouverture ronde d'un diamètre d'1 mètre environ se déployer dans la paroi en face de son lit, empiétant sur une partie de l'image de paysage hawaïen accrochée au mur. De nombreuses cabines à bord du vaisseau permettaient d'ouvrir des portes à n'importe quel endroit des parois, mais Ike n'avait jamais vu une telle ouverture circulaire, d'autant que les murs des cabines des officiers étaient en métal et ne pouvaient se déformer de cette façon. Ike observa l'ouverture en détail et découvrit que ses contours étaient aussi polis et réfléchissants que la surface d'un miroir. Le phénomène était étrange, mais il ne s'en offusqua nullement, car la lieutenante Panova occupait la cellule voisine. Panova était ingénieur en charge de la maintenance du système d'intelligence artificielle à bord du Gravité. Ike était tombé sous le charme de cette magnifique Russe, mais cette dernière ne semblait éprouver aucun intérêt pour lui. Ike se souvenait que, deux jours plus tôt, alors que tous deux venaient de terminer leur service, ils étaient retournés ensemble dans les quartiers des officiers. Ike avait tenté de s'inviter dans sa cabine, mais comme chaque fois, Panova l'avait bloqué à l'extérieur.
« Allez, chérie, juste pour bavarder un peu. On est voisins et je n'ai jamais passé la porte de ta cabine. Tu penses à mon honneur d'homme ?» lui avait lancé Ike.
Sur ce vaisseau, les hommes qui ont de l'honneur sont trop préoccupés pour avoir le cœur de forcer la porte de leur voisine, avait répondu Panova en regardant Ike de travers.
Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si préoccupant? Quand nous aurons rattrapé cette bande d'assassins, rien ne menacera plus notre monde et ce sera le retour des jours heureux.
Ce ne sont pas des meurtriers. Sans la dissuasion, l'espace bleu serait le seul espoir de survie pour l'humanité. Mais voilà que maintenant nous le pourchassons en compagnie de nos ennemis. Tu ne trouves pas ça déshonorant ?
Oh, chérie, avait fait Ike en pointant du doigt la poitrine généreuse de Panova. Si c'est ce que tu penses vraiment, comment...
Comment se fait-il que je participe à cette expédition, c'est ça ? Eh bien, va donc me dénoncer auprès du psychologue en chef et des autres officiers. Je serai aussitôt mis en hibernation forcée et démobilisé à notre retour sur Terre. Je ne demande pas mieux.
Puis elle avait poussé un soupir et lui avait claqué la porte au nez. À présent, ce dernier avait l'occasion d'entrer sans aucune contrainte dans la cabine de la lieutenante. Il défit sa ceinture antigravité et s'assit sur le lit. Mais il s'immobilisa quand il aperçut que la partie basse de l'ouverture circulaire avait aussi fait disparaître un tiers de sa commode. L'extrémité sectionnée du meuble avait la même surface lisse et miroitante que celle de l'ouverture dans le mur, comme si elles avaient été échancrées par une lame tranchante et invisible. Le bord de la commode n'était pas la seule partie à avoir été sectionnée. La pile de vêtements pliés qui reposait à l'intérieur avait également été découpée proprement et, au niveau de la coupe, figurait la même surface réfléchissante. Toute la section tranchée concordait avec le contour de l'ouverture, comme si c'était un élément à l'intérieur d'une même sphère. Ike poussa le lit, qui se souleva légèrement sous l'effet de la pesanteur. Il regarda à travers l'ouverture et fut saisi d'une frayeur telle qu'il eut l'impression de nager en plein cauchemar. De l'autre côté du trou, la partie du lit de Panova plaquée contre le mur était manquante. Mais plus terrifiant encore, les mollets de celle-ci manquaient aussi. Les sections tranchées du lit et des jambes de Panova étaient elles aussi parfaitement polies et miroitantes, comme enduites d'une couche de mercure. On pouvait même voir la coupure nette des muscles et des os de la lieutenante. Le reste de son corps était cependant indemne. Elle dormait profondément sur le lit, sa poitrine se soulevant lentement au rythme de sa respiration. En temps normal, Ike aurait certainement été grisé par la scène, mais il n'éprouvait maintenant qu'épouvante devant ce phénomène surnaturel. Quand il réussit à retrouver son calme, il examina plus attentivement la cabine de Panova et remarqua que la surface tranchée du lit et de ses mollets coïncidait également avec la forme sphérique de l'ouverture. Il semblait se trouver devant une sorte de bulle d'environ 1 mètre de diamètre, ayant escamoté tout ce qui était à l'intérieur. Ike se saisit de l'archet de violon sur sa table de nuit. D'une main tremblante, il l'inséra au milieu de cette bulle invisible. Et comme il s'y attendait, la partie de l'archet à l'intérieur de la bulle disparut, tandis que le reste de l'objet était encore visible et que le crin était encore bien tendu. Il tira l'archet à lui et constata qu'il était intact. Il se réjouit toutefois de ne pas avoir tenté à l'instant de pénétrer lui-même à travers l'ouverture. Qui sait s'il aurait pu en ressortir entier. Ike s'efforça de reprendre son sang-froid et de réfléchir à l'explication la plus rationnelle à ce phénomène paranormal. Il prit finalement la décision qui lui semblait la plus sage, enfiler son bonnet somnifère et retourner se coucher. Il s'attacha fermement et programma sa durée de sommeil à 1/2 heure. Lorsque Ike se réveilla 30 minutes plus tard, le trou était toujours là.
Il reprogramma cette fois son bonnet somnifère pour un sommeil d'une heure. À son réveil, il vit que l'ouverture s'était éclipsée. Le paysage hawaïen était toujours accroché au mur, intact. Tout était redevenu comme avant. Mais Ike se faisait tout de même du souci pour Panova. Il sortit précipitamment de sa cabine et tambourina à la porte de la lieutenante sans même prendre la peine de sonner. Dans son esprit flottait la vision terrifiante d'une Panova agonisant sur son lit, les jambes tranchées. La porte ne s'ouvrit qu'après un long moment, et Panova lui demanda d'une voix encore assoupie ce qui lui prenait.
« Je voulais vérifier que tu... n'es rien, » balbutia Ike tout en dirigeant son regard vers les deux longues jambes de Panova sous sa robe de chambre. Elles étaient indemnes.
« Connard !» cracha Panova, puis elle ferma violemment la porte. De retour dans sa cabine, Ike enfila de nouveau son bonnet somnifère et commença un sommeil de 8 heures. La chose la plus avisée était désormais de se taire et de garder le récit de cet événement pour lui. En raison de la nature de la mission du gravité, l'équipage, et en particulier les officiers de tout rang, étaient soumis à une vigilance étroite. Sur la quelques centaines de membres à bord du gravité, pas moins de 10 travaillaient au sein d'une unité de surveillance psychologique. Si le vaisseau devait un jour être pris en otage, ses ravisseurs auraient bien du mal à savoir si le gravité était un vaisseau interstellaire ou un asile psychiatrique. Se trouvait notamment parmi eux l'agaçant Dr. West, un psychologue qui n'était pas militaire de formation et qui expliquait tout en termes de désordre et de troubles mentaux. Un simple problème de chasse d'eau devait subir une analyse psychologique très poussée. Les examens médicaux à bord du vaisseau étaient extrêmement rigoureux et dès que la moindre attitude laissait soupçonner un début de déséquilibre mental, l'individu en question était placé en hibernation forcée. Ike était effrayé à l'idée de manquer l'instant historique que constituerait la rencontre des deux vaisseaux. Comment pourrait-il passer pour un héros aux yeux des femmes quand il rentrerait sur Terre dans 50 ans ? Mais il commençait à reconsidérer la version qu'il portait à West et aux autres membres de l'unité de surveillance psychologique. Il avait certes toujours l'impression qu'ils en rajoutaient des tonnes, mais il admettait n'avoir jamais imaginé que des hallucinations puissent être aussi réalistes. La scène dont fut témoin Liu Xiaoming se révéla encore plus spectaculaire que les hallucinations surréalistes de Ike. Le sergent était en train d'effectuer une mission d'inspection de la coque extérieure du vaisseau à bord d'une petite capsule spatiale. Ce travail de routine consistait à examiner le bâtiment depuis une certaine distance pour détecter d'éventuelles anomalies sur sa coque, telles que des impacts de météorites. C'était une pratique ancienne et relativement dépassée qui n'avait plus vraiment lieu d'être. D'ailleurs, elle était rarement exécutée sur le gravité, car les nombreux senseurs installés sur la coque étaient suffisamment sensibles pour repérer la moindre avarie. En outre, ce travail ne pouvait être conduit qu'en période de vol libre et non en phase d'accélération et de décélération. Ces derniers temps, en raison du rapprochement prochain avec l'espace bleu, le gravité devait accélérer et décélérer fréquemment pour ajuster sa vitesse. Il était exceptionnel que le vaisseau navigue à une vitesse constante, et le sergent avait reçu pour consigne de profiter de cette occasion unique pour mener une mission d'inspection externe. Le sergent sortit la capsule du hangar situé au milieu de l'appareil et glissa lentement jusqu'à avoir une vision d'ensemble du gravité. Celui-ci était baigné par la lueur de la Voie lactée. Contrairement aux périodes précédentes de navigation où la majorité de l'équipage était en phase d'hibernation, de la lumière filtrait maintenant depuis les hublots et les ponts externes du gravité, renvoyant l'image d'une gigantesque tache chatoyante. Il paraissait en cet instant plus imposant et plus majestueux qu'il ne l'avait jamais été. Soudain, l'attention du sergent Liu Xiaoming fut attirée par un détail qui défiait la raison. La poupe du gravité, un appareil cylindrique standard, était devenue oblique. Le vaisseau semblait également beaucoup plus court que d'ordinaire, d'environ 1/5, comme si un segment de sa queue avait été tranché par un couteau géant. Le sergent ferma les paupières pendant quelques secondes, puis les rouvrit et constata qu'une partie de la poupe était toujours manquante. Brusquement, un frisson glacé lui parcourut la moelle épinière. L'étrange spectacle qui s'offrait à lui n'était pas la seule source de son anxiété. Une menace imminente pesait désormais sur l'embarcation. Cet énorme vaisseau interstellaire était un tout organique. Si la poupe venait à disparaître, les systèmes de distribution d'énergie seraient détruits, entraînant l'explosion immédiate de tout le bâtiment. Mais rien ne se passa. Le gravité continuait à naviguer paisiblement comme suspendu dans l'espace silencieux. Nulle alarme d'aucune sorte ne retentit dans ses oreillettes ou sur les écrans devant lui. Le sergent appuya sur le bouton de l'interphone. Il eut d'abord l'idée d'adresser un rapport à ses supérieurs, mais il éteignit aussitôt le canal de communication. Les mots d'un vieil astronaute ayant pris part à l'ultime bataille lui revenaient en mémoire. Dans l'espace, on ne peut pas se fier à l'instinct. Et si c'est réellement nécessaire, il faut compter jusqu'à 100. Et si le temps manque vraiment, au moins jusqu'à 10. Il ferma les yeux et commença à compter. Il les rouvrit à 10, mais la poupe du gravité était toujours manquante. Il referma les paupières et poursuivit son décompte, sa respiration s'accélérant. Il s'efforçait de se rappeler les exercices appris et s'ingéniait à retrouver son calme. Il rouvrit les yeux à 30 et examina fébrilement le gravité. Il était intact. Le sergent baissa à nouveau les paupières et expira longuement jusqu'à ce que son cœur reprenne un rythme régulier, puis il dirigea sa capsule vers l'arrière de l'appareil. Il survola l'extrémité de ce cylindre géant et vit les trois énormes tuyères du moteur à fusion nucléaire. Le moteur n'était pas enclenché et le réacteur à fusion était maintenu à une puissance minimale, si bien que seule une lueur rouge pâle se dégageait des tuyères, lui rappelant les crépuscules terrestres. Heureusement pour lui, le sergent Liu Xiaoming n'avait transmis aucun rapport. Dans une telle situation, un officier aurait peut-être été simplement contraint de suivre une thérapie psychologique, mais un sous-officier comme lui n'aurait pu échapper à l'hibernation forcée. Comme Ike, Liu Xiaoming ne voulait pas être un rebut quand il rentrerait sur Terre. Le docteur West alla trouver Guan Yifan, un scientifique civil ayant embarqué à bord du vaisseau. Celui-ci travaillait dans le poste d'observation astronomique situé à l'arrière de l'appareil. Une cabine lui avait été attribuée au milieu du gravité dans les quartiers d'habitation, mais il n'y séjournait que rarement, préférant passer la majeure partie de son temps dans son poste d'observation. Il demandait même à s'y faire livrer ses repas par un robot de service, si bien qu'on avait pris l'habitude de le surnommer l'ermite de la poupe. L'observatoire était une cabine sphérique étroite. Quand West vit Guan Yifan, celui-ci flottait au milieu de la cabine. Il avait mauvaise mine et sa barbe et ses cheveux étaient négligés, bien qu'il paraisse tout de même encore très jeune. Quelque chose semblait le tourmenter. De la sueur perlait à ses tempes, son regard était anxieux et sa main tirait sur son col comme s'il avait du mal à respirer. « J'ai du travail, je n'ai pas le temps de vous recevoir, je vous l'ai déjà dit au téléphone !» pesta Guan Yifan, manifestement agacé par la visite du docteur. C'est précisément la raison de ma venue. Notre conversation téléphonique m'a laissé penser que vous souffriez de troubles psychologiques. Je ne suis pas militaire, et tant que je ne présente aucune menace pour le vaisseau ou pour la sécurité des autres passagers, vous n'avez rien à me dire. En effet, j'étais juste venu voir si vous aviez besoin de moi. West se retourna et lâcha avant de sortir. « Cela m'étonne qu'un individu atteint de claustrophobie puisse travailler dans ce genre d'endroit. » Guan Yifan le rappela, mais le médecin l'ignora. Comme celui-ci l'avait prévu, Guan Yifan le rattrapa et lui saisit le bras en disant « Comment savez-vous ? C'est vrai, je suis un peu claustrophobe. Je me sens enfermé, comme coincé dans un tuyau étroit. Et d'autres fois, j'ai l'impression d'être aplati entre deux plaques de métal. » « Il n'y a rien d'étonnant. » « Regardez autour de vous, » fit le docteur en indiquant la cabine. « On dirait un œuf dans un nid fait de conduits et de câbles. L'objet de vos recherches est immensément grand, mais vous les menez dans un espace extrêmement exigu. Réfléchissez, depuis combien de temps êtes-vous ici? Cela fait déjà 4 ans depuis votre dernière hibernation, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais plaint. La mission du gravité est de faire appliquer la loi, non de conduire une exploration scientifique. Le départ s'est fait précipitamment et je suis très heureux d'avoir eu la chance qu'un tel poste d'observation m'ait été réservé. Non, ma claustrophobie n'a rien à voir avec ça.
Et si nous allions nous promener sur la place numéro 1? Je suis sûr que cela vous sera bénéfique.
Le docteur n'ajouta rien de plus et tira Guan Yifan à lui. Tous deux partirent en planant en direction de l'avant du vaisseau. Si le gravité se trouvait en phase d'accélération, parcourir l'appareil de la poupe à la proue équivalait à escalader un puits 1 kilomètre de profondeur, mais en apesanteur, la chose était facile. La place numéro 1 était localisée à l'avant du vaisseau cylindrique. Elle était surplombée d'un dôme transparent dont on oubliait presque la présence. En se tenant debout au milieu de la place, on avait l'impression d'être en plein espace. En comparaison des cabines sphériques sur les parois desquelles étaient projetées des images holographiques du ciel étoilé, ce lieu renforçait davantage l'effet de dématérialisation des voyages interstellaires. L'effet de dématérialisation était un concept de psychologie astronautique. Sur Terre, les humains étaient entourés de substances tangibles et leur représentation du monde était ainsi matérielle et substantielle. Mais dans l'espace profond, loin du système solaire, les étoiles n'étaient que des points lumineux distants, et la galaxie, un simple nuage brumeux et scintillant. Tant au niveau des sens que de l'esprit, le monde perdait en matérialité et en substantialité. Il était désormais dominé par le vide. Par conséquent, l'image subconsciente du monde devenait virtuelle, dématérialisée. Ce modèle mental constituait le fondement de la psychologie astronautique. Dans cette logique, le vaisseau devenait mentalement la seule entité matérielle de l'univers. À une vitesse infraluminique, les mouvements de l'appareil n'étaient pas détectables et le cosmos devenait un hall d'exposition vide et pourtant sans limite, où les étoiles n'étaient que des illusions et le vaisseau la seule œuvre exposée. Ce modèle était susceptible de créer un atroce sentiment de solitude et de développer des hallucinations chez les passagers, parmi lesquelles celle d'être un super observateur en train de regarder cette œuvre exposée. Cette sensation de dévoilement absolu était source d'angoisse et d'apathie. L'un des effets psychologiques néfastes induits par la navigation spatiale provenait de la nature ouverte de l'environnement extérieur. Malgré sa riche expérience, West avait rarement vu de patients devenir claustrophobes dans une telle atmosphère, mais le cas dont il était ici témoin l'intriguait. Guan Yifan ne se sentait de toute évidence pas plus libéré au milieu de la vaste place. L'anxiété et le malaise causés par sa claustrophobie ne s'étaient pas dissipés, ce qui tendait à confirmer ce que prétendait Guan Yifan. Ses troubles n'étaient pas liés à l'exiguïté du poste d'observation. Son état piquait la curiosité du docteur West. « Vous ne vous sentez toujours pas mieux ?» demanda le médecin. « Non, pas du tout. J'ai toujours l'impression d'être enfermé. Ici, partout, tout est si clos. » Guan Yifan balaya rapidement des yeux la voûte étoilée avant de diriger son regard dans la direction vers laquelle faisait route le gravité. Le docteur West savait qu'il cherchait l'espace bleu. Les deux vaisseaux étaient maintenant à 100 000 kilomètres l'un de l'autre. Ils avaient cessé d'accélérer et naviguaient désormais à une vitesse similaire. À l'échelle de l'espace, ils volaient presque en formation rapprochée. Les états-majors des deux bâtiments étaient en ce moment même en train de négocier les derniers détails techniques de l'amarrage. Pourtant, à cette distance, on ne voyait pas encore l'espace bleu à l'œil nu. Tout comme on ne voyait pas non plus les gouttelettes qui, conformément à un accord passé 50 ans plus tôt avec Trisolaris, s'étaient éloignées à 300 000 kilomètres des deux vaisseaux humains. Le gravité, l'espace bleu et les gouttelettes formaient un long triangle isocèle. Le regard de Guan Yifan revint sur West. « J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'arrivais dans un endroit étrange, large, ouvert, tellement ouvert qu'il défiait l'imagination. Quand je me suis réveillé, je me suis senti à l'étroit, et c'est à partir de ce moment que ma claustrophobie a commencé. Un peu comme si j'avais grandi depuis ma naissance à l'intérieur d'une boîte. Dans mon rêve, j'ai réussi à m'en extirper. Désormais, le monde n'est plus le même. Je refuse d'être à nouveau enfermé.
Parlez-moi de cet endroit dont vous avez rêvé. Guanyi Fan adressa au médecin un sourire mystérieux.
J'en parlerai bien aux scientifiques à bord et j'accepterai même de le faire avec ceux de l'espace bleu, mais pas à vous.
Ça n'a rien de personnel, docteur, mais je supporte mal les manies des gens de votre branche. À partir de l'instant où vous avez décidé que quelqu'un avait un trouble mental, vous faites comme si tout ce qu'il disait n'était que les hallucinations d'un esprit malade.
Mais vous venez vous-même de parler de rêve ?
Guanyi Fan secoua la tête, s'efforçant de se souvenir.
Je ne sais pas si c'était un rêve. Je ne sais pas si j'étais éveillé. Il arrive parfois qu'on croit se réveiller d'un rêve avant de découvrir qu'on rêve encore. D'autres fois, on est réveillé, mais tout apparaît comme dans un rêve.
La deuxième situation est très rare. Si c'est cet état dont vous faites l'expérience, je peux diagnostiquer le symptôme d'un trouble mental.
Oh, mais si je dis ça, vous risquez de mal le prendre.
Non, non, je pense en réalité que nous ne sommes pas si différents. Chacun de nous a son sujet d'observation.
Vous, vous observez les malades mentaux ? Moi, j'observe l'univers. Comme vous, j'ai aussi des critères qui permettent d'évaluer la bonne santé de mon patient. Son harmonie et sa beauté, du moins sur un plan mathématique.
Mais de toute évidence, votre patient est sain.
Vous vous trompez, docteur.
Guanyi Fan pointa du doigt l'étincelante voie lactée. Mais ses yeux fixaient ouest comme s'il désignait un monstre gigantesque.
C'est un paraplégique.
Pourquoi donc ? Guanyi Fan se baissa en attrapant ses deux genoux. Cette action lui permit de basculer lentement en apesanteur. Il vit la somptueuse galaxie tourner lentement autour de lui. Il devenait le centre de l'univers.
À cause de la vitesse de la lumière. Nous savons que l'univers observable possède un rayon de 46 milliards d'années-lumière et qu'il est en expansion continue. Cependant, la lumière ne parcourt que 300 000 km par seconde. Elle est terriblement lente. Cela signifie que la lumière ne peut jamais se rendre d'un bout à l'autre de l'univers. Comme rien n'est plus rapide que la vitesse de la lumière, aucune information ni aucune force motrice générée à une extrémité de l'univers n'atteindra jamais l'autre extrémité.
Si l'univers était un individu, ce serait... comme si aucun message nerveux ne pouvait jamais être transmis d'un bout à l'autre de son corps.
Le cerveau ignorerait l'existence des membres et les membres celle du cerveau. En réalité, chaque membre ignorerait même l'existence des autres membres.
Ne tenons-nous pas là la définition d'un paraplégique ?
Je pourrais même utiliser une autre image, encore plus terrifiante. L'univers est un cadavre en expansion.
C'est intéressant, docteur Guan, très intéressant.
En dehors de la vitesse de la lumière et ses 300 000 km par seconde, il y a un autre symptôme qui repose sur le chiffre 3.
Lequel ?
Les trois dimensions. Selon la théorie des cordes, si l'on écarte celle du temps, notre univers comporte 10 dimensions, mais trois seulement sont macroscopiquement sensibles. Ce sont ces trois dimensions qui façonnent notre monde. Toutes les autres sont recroquevillées sur elles-mêmes à l'échelle quantique.
Si je ne m'abuse, les tenants de la théorie des cordes ont une explication à ce phénomène.
Certains estiment que le déroulement d'une dimension au niveau macroscopique est produit par la rencontre entre deux cordes, phénomène qui neutraliserait un grand nombre de paramètres, et que cette rencontre n'aura jamais lieu pour les dimensions supérieures à la troisième. Mais cette explication me semble tirée par les cheveux. Mathématiquement, elle n'est pas belle. Comme je l'ai dit, c'est le symptôme du 3 et du 300 000 de l'univers.
Et quelle est la cause de ce symptôme ? Guanyi Fan explosa de rire et passa son bras autour des épaules du docteur.
C'est une excellente question. Pour ne rien vous cacher, je crois que personne n'est jamais allé aussi loin. Pour ma part, je pense qu'il existe une cause profonde et qu'elle est peut-être la vérité la plus terrifiante que la science sera jamais en mesure de révéler. Mais, docteur, pour qui me prenez-vous ? Je ne suis après tout qu'un pauvre petit observateur confiné dans une cabine étroite à la poupe d'un vaisseau. Au décollage de l'appareil, je n'étais qu'un jeune assistant de recherche. » Il relâcha le docteur et poussa un long soupir en regardant la Voie lactée. « Je suis celui qui a été hiberné le plus longtemps sur le gravité. Je n'avais que 26 ans à notre départ et je n'en ai que 31 aujourd'hui. Cependant, l'univers n'engendre plus à mes yeux aucune foi ni aucune beauté. C'est une dépouille qui se dilate. Je me sens vieux. Les étoiles ne m'attirent plus. Je n'ai qu'une envie, rentrer chez moi. »
À la différence de Guan Yifan, le docteur West était resté éveillé pendant une bonne partie du parcours. Il avait toujours considéré qu'afin de préserver l'équilibre mental des autres passagers, il devait être le premier à contrôler ses émotions, mais à cet instant, quelque chose avait ébranlé son âme. Pour la première fois, c'est avec les yeux humides qu'il regardait ce voyage d'un demi-siècle. « Mon ami, moi aussi j'ai vieilli. » Comme en réponse, une alarme résonna de façon stridente. C'était l'espace tout entier qui hurlait. De larges fenêtres d'information jaillirent au milieu de la place, se superposant les unes aux autres jusqu'à bientôt recouvrir la Voie lactée à la manière de nuages aux nuances sombres. « Une attaque de gouttelettes !» annonça Guan Yifan à un West perplexe. « Elles se sont probablement mises à accélérer, l'une en direction de l'espace bleu, l'autre vers nous. » Guan Yifan regarda tout autour de lui, cherchant instinctivement quelque chose auquel se tenir dans le cas où le vaisseau accélérerait brusquement. Mais il n'y avait rien autour de lui, et il finit par s'agripper au docteur. West lui prit les mains. « Il est trop tard pour que le vaisseau puisse s'enfuir. Il ne nous reste qu'une dizaine de secondes. » Après un bref moment de panique, tous deux éprouvèrent un étrange sentiment de soulagement, comme s'ils se réjouissaient que leur mort advienne d'une façon si subite qu'ils n'auraient pas le temps d'avoir peur. Leur précédente discussion sur l'univers avait peut-être été le meilleur moyen possible de se préparer à la fin. Une même pensée naquit dans leur esprit, mais Guan Yifan fut le premier à la formuler à haute voix. « On dirait bien que nous n'avons plus à nous en faire pour nos malades. »